Interview.
Du jour. Bienvenue sur RTWA sur le 107.5 FM et sur le net sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons donc Patricia Ferré qui est venue sur le DIWA pour participer aux rencontres de l'écologie au quotidien et Marie-Vonne, donc sur une émission qui aura pour thème la vie après le cancer du sein. Alors, pour information, donc, le cancer du sein, c'est aujourd'hui en moyenne en France plus de 48 000 nouveaux cas par an. Selon les estimations. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, soit plus d'un tiers des cancers chez la femme. Il y a aussi des cancers du sein chez l'homme, mais c'est très très marginal puisque c'est moins de 1% des cancers du sein. Pour rester dans les informations générales, le taux de survie est estimé à 89% dans les cas où le cancer est dépisté suffisamment tôt. Il y a quand même un bon taux de survie. Et enfin, pour donner encore quelques chiffres, 52% des femmes participent aujourd'hui au dépistage organisé, donc à partir de 50 ans. Alors, ce sont des chiffres que j'ai trouvés sur le site de e-cancer.fr, qui fourmille de documentation sur qu'est-ce que le sein, qu'est-ce qu'une mammographie, ce genre de choses. Cependant, aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer quand même sur la vie après un cancer du sein. Donc, Marie-Vonne, bonjour. Patricia, bonjour.
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 Donc, vous avez toutes les deux subi cette maladie. Je vais vous laisser en dire deux mots et vous présenter.
Alors, Marie-Vonne Berthet, j'ai effectivement eu un cancer, parce que je ne dis plus... j'ai dit un cancer du sein, et en 2003, donc il y a déjà maintenant 12 ans. Et j'ai été dépistée, en fait, je me suis dépistée moi-même, et j'avais une adresse à Montpellier, aux hôpitaux facultés de Montpellier. C'est là-bas que j'ai été dépistée, parce que ici, sur 10, j'ai pas eu le dépistage au bon moment. Enfin, disons que je me suis prise en main parce que j'avais un doute en fait sur. On m'avait dit que c'était à 90% bénin, les petites tumeurs dans le sein. Et bon, je me suis dit, il reste 10%. Et là, je me suis renseignée auprès d'un homéopathe qui m'a dit, mais je vais te donner une adresse à Montpellier pour le dépistage. Et effectivement, bon, c'est avéré, mais que c'était un cancer avec des cellules intermédiaires, donc qui n'était pas très avancé. Donc intermédiaire, ça va entre 0 à 5, et moi j'étais à 2. Voilà, pour ce qui concerne le dépistage.
Alors Patricia, votre expérience à vous ?
Alors ben, moi, mon cancer du sein aura 2 ans le 14 février 2015, puisque moi il y a donc été annoncé... le jour de la Saint-Valentin 2013. En fait, moi, j'étais, après la naissance de ma petite fille Carmen, allée voir la gynécologue pour qu'elle s'occupe de mon périnée, parce que j'avais envie de reprendre le sport. Et en fait, avant de s'occuper de mon périnée, elle m'a dit « Mais c'est quoi ce truc-là, au sein gauche? Vous avez ça depuis longtemps ?»« Bah, peut-être dernier trimestre de grossesse, mais bon, vous savez, ça va, ça vient. Ah, peut-être aller voir. » Et on est donc allé voir. Et effectivement, son intuition était quand même la bonne, puisque effectivement, donc, cancer du sein gauche, un cancer pas hormonal, mais bien dopé quand même pendant la grossesse, qui fait que mon sein gauche était perdu pour la cause, et que ça avait percé un petit peu donc, la chaîne ganglionnaire, donc une opération aussi, mastectomie, curage axillaire, voilà, donc il y a 2 ans maintenant.
D'accord. Bon, bah merci pour ces précisions. Comment ça s'est passé avec vos conjoints respectifs ? Si c'est pas, après, vous répondez dans la mesure où...
Non, c'est pas indiscret, non. Ça s'est bien passé dans la mesure où on était toujours deux. Et ça, c'était important de pas être seul, parce que je pense que vraiment... affronter ça seul, je suppose que ça ne doit pas être très évident. Donc, il m'a toujours accompagnée dans mes démarches, où que j'aille. Et même pour au moment de l'opération, ça fera 12 ans hier, pour l'ablation du sein. Et j'ai été très contente du chirurgien que j'ai eu, qui a été formidable, parce que c'est un chirurgien plasticien qui m'a opérée à Die, à l'hôpital de Die. J'étais très contente de l'hôpital de Die, où j'ai suivi également le traitement. D'accord. De chimiothérapie à Die. D'accord. Et donc, l'accompagnement du conjoint est vraiment très important.
Ça a été la même chose. Je rebondis, ça a été assez exceptionnel. En fait, donc, on venait d'avoir une petite fille de 2 ans. Et en fait, pour la petite histoire, Jean-Philippe, puisque c'est son prénom, quand il m'avait fait sa déclaration 2 années plus tôt, m'avait dit « J'aimerais tant être tout près de ton cœur. Okay. » S'il avait su à quel point il serait aussi près de mon cœur une fois l'opération passée. Donc en fait, ça illustre assez bien voilà, sa proximité. Et c'est sûr que c'est une force, évidemment, voilà, qui est colossale de pouvoir s'appuyer sur son compagnon, qui a été très présent. Et c'est vrai que la parole, la communication, c'est quelque chose de très important, surtout dans un temps où en fait la féminité est peut-être interrogée. Donc le regard du compagnon sur ce sein qui n'est plus, sur cette cicatrice, sur ses cheveux rasés, et d'être toujours une femme et de sentir qu'on est une femme bien au-delà de cette cicatrice et de ses cheveux. Ouais, ça fait du bien, c'est sûr.
Alors ça fait partie, moi, des questions que je voulais vous poser, justement. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer un peu par vos conjoints, puisque je vous sais toutes deux en couple. Maintenant que c'est terminé, comment ça se passe pour vous dans vos corps féminins, dans votre rapport à la sexualité, à nouveau avec des situations différentes, puisque vous n'avez pas les mêmes âges, mais en même temps, vous devez avoir des préoccupations différentes, mais similaires.
Oh ben je vais me saisir de la question alors. Ben moi ça se passe bien, ça se passait très bien avant, ça s'est globalement même bien passé pendant, merci la cortisone qui peut donner quand même un peu de forme dans des moments où on est un peu fatigué, donc c'est présent, la féminité, moi j'ai ce parcours du cancer du sein m'a révélé à moi-même d'une certaine manière, et c'est vrai que je pense que j'ai vu la femme en moi. J'ai une image très nette, en fait, en sortant d'une salle de bain face à un miroir et de voir cette cicatrice et ses cheveux rasés, encore une fois, et de me dire, ouais, je suis une femme, il n'y a pas là. Et quand bien même on pourrait regarder et dire, intimement, si, intérieurement, si.
Moi, j'ai un souvenir très marquant de la campagne qui avait été faite il y a quelques années sur le dépistage du cancer du sein avec les femmes torse nues. Et qui disait, en montrant ses seins, cette femme a sauvé sa vie. Je pense que c'est vrai que je pense que le fait de diffuser ce type d'image, y compris de femmes dont un sein avait été ôté, ça a quand même aussi aidé, à mon avis, dans l'imaginaire collectif, et puis peut-être dans le parcours de patiente aujourd'hui, de se sentir moins...
On n'a pas forcément besoin de se cacher, en fait. Je pense que c'est ça, un côté plus assumé.
On ressemble aussi à une Amazone.
C'est pas rien.
Est-ce que vous avez été accompagnée psychologiquement par rapport à ça, une fois l'opération, une fois le traitement achevé ?
Moi, j'ai commencé, disons, un accompagnement psychologique avant. Parce que ma décision, j'avais beaucoup de difficultés à la prendre. Parce que je voulais avoir plusieurs avis avant de subir l'intervention, déjà. Et donc... Je suis allée voir quelqu'un qui m'a fait essayer de donner du sens à cette maladie et qui d'ailleurs m'a prononcé une phrase très importante. Il m'a dit que tout cancer était une résolution de conflit. Et puis il m'a dit « Sache que ce que ta tête n'a pas pu résoudre, c'est ton corps qui l'a résolu. » Et il le fait pour le bien du tout. Il le fait pour le bien de la totalité de ton être, en fait. Donc, à partir de là, on a travaillé sur le sens qu'avait ce cancer pour moi, dans ma vie. Et c'est... Voilà. C'est, finalement, c'était un passeur, en fait. C'était pas un psy, c'était un accompagnateur de stress, en fait, qui avait différentes méthodes, décodage biologique, constellation familiale, enfin, tout un ensemble de choses, d'outils dont il se servait pour aider, pour accompagner. Et ça a été pour 50% de, j'allais dire, de ma guérison, enfin, ou de... Ça a été très, très important pour moi.
Moi, j'ai entamé aussi un travail psy à ce moment-là. En fait, j'avais bossé avec une psy quelques années à la faveur d'un neurodivorce. Et en fait, je l'ai rappelée en lui disant « Bon, bah, écoutez, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé, alors tout va bien, j'ai un mec super, je suis très heureuse, je viens d'avoir une petite fille, c'est formidable. Mais bon, là, en fait, je viens de me faire opérer, j'ai un sein en moins, des chimios devant moi, donc ça serait peut-être pas mal qu'on se voit quand même. » Et on a travaillé ensemble et je poursuis en fait ce travail analytique parce que dans le cadre d'une formation que je fais en coaching, donc c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais en parallèle, c'est vrai que j'ai eu d'autres soutiens, on va dire, que de la psy pure et dure, notamment par le sport et par l'art. Mais on aura sans doute l'occasion d'en parler. Mais ce processus d'accompagnement global, de me dire, bon, je m'accompagne dans ça, de quoi j'ai besoin maintenant, puisque c'est l'heure d'écouter, effectivement, de s'écouter. Et je suis très en phase avec ce que Marie-Bonne a dit sur ce message du corps, la maladie, ce corps qui crie. Des moments où on ne l'a pas entendu, bon là, là tu t'assieds, t'es sage, t'écoutes, et puis voilà, on prend les choses un peu autrement.
Dans les mois, ou pour Marie-Vonne, dans les années qui ont suivi, vous avez encore eu des contacts avec les équipes médicales qui vous ont suivi pendant la maladie, pendant le traitement ?
Non.
Non. Et vous, Patricia ?
Alors moi, je continue un peu parce qu'en fait, j'étais en traitement anticorps jusqu'en mai dernier. Et comme je faisais partie d'un protocole de recherche, je vais serrer la main à mon oncologue tous les 3 mois. Voilà, mais c'est l'occasion aussi d'aller à l'Institut Curie et de rencontrer d'autres femmes et d'échanger avec des gens qui sont au début, ou pendant, ou après. Et ça a du sens comme ça, en fait.
Vous faites partie aussi donc, d'une association qui s'appelle SKIN,
oui.
Si vous voulez bien la présenter.
Alors SKIN, c'est une association qui a été créée en 2012 par Cécile Lacheboul, qui elle-même a subi en fait, une double mastectomie et qui était partie du constat que finalement, il n'y avait rien. Elle avait fait une expérience avec une photographe, mais qui n'avait pas été concluante. Et se dire finalement, il n'y avait rien pour la femme sur ça, ce regard un peu artistique. Et en fait, elle a eu cette idée de monter un binôme avec une artiste et de créer, en fait, de concert, donc une œuvre. De cette histoire-là, elles se sont dit qu'avec Karine Zibaud, que c'était vraiment une belle idée. Et donc, elles ont formé plusieurs binômes. Et donc, ce processus créatif aboutit au mois d'octobre, à l'occasion des manifestations autour d'Octobre Rose, à une exposition. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire ce travail avec Karine. Hasard du calendrier, mais je ne crois pas tellement au hasard. En fait, j'avais été conviée au vernissage de l'exposition un 2 octobre 2013. Et le matin même, je faisais ma dernière séance de rayon. Donc c'était quand même assez sympa d'organiser un petit vernissage pour ma fête de fin de cancer. Et j'ai rencontré Karine à ce moment-là et on a cheminé ensemble. Et ça a été un parcours, je pense que j'aurai l'occasion de montrer demain ce film de 13 minutes. Qui m'a donné en fait l'occasion vraiment d'accompagner cette sortie des soins, ce moment où finalement on se retrouve avec soi, en disant avec quand même un peu dans les montagnes russes, parce que c'est vrai que c'est des fortes émotions toutes ces affaires, et que quand on a conscience, quand on réalise ce qu'on a fait une fois que c'est fait, c'est bien de pouvoir s'accompagner autrement et surtout d'être dans un processus où finalement c'est pas les mots qui témoignent. Mais c'est le corps qui s'exprime, c'est la créativité qui se libère. Et ça m'a vraiment donné l'occasion de me consoler et de refermer ce chapitre en douceur, à mon rythme, en ayant cette chance de pouvoir mettre une belle image sur cette histoire du cancer, en fait.
Donc vous pouvez retrouver pour les auditeurs les informations sur l'association SKIN, que ça s'écrit s.k.i. Alors ça doit être .com ou .fr, enfin, voilà. c'est facile à retrouver.
C'est Paris ?
Alors c'est sur Paris, mais c'est vrai que la vocation de SKIN, c'est que ces binômes artistiques, il y en avait une vingtaine l'année dernière, là il y a des binômes encore qui se recréent. Un artiste, une femme, ça peut émerger de partout en fait. Et c'est le but, parce que c'est vrai qu'on est dans un processus de reconstruction par l'art, de l'âme, du corps. Et que bah, moi, je fais le vœu aussi d'être un peu cette ambassadrice parce que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté et que je vois les femmes qui sont passées par là sur un processus de guérison durable.
Maintenant que vous êtes dans cette après, j'ai alors deux questions qui sont peut-être un peu douloureuses, mais en même temps, voilà, je vais quand même les poser. J'ai une question complètement triviale avant qui va faire transition avec le reste. Comment ça se passe pour des soutiens-gorge une fois qu'on a eu une mastectomie?
Moi, j'aimais bien Princesse Tam Tam. Bah, en fait, non. Maintenant, j'ai deux soutiens-gorge. plutôt cœur croisé de Plétex, un peu dans ce genre-là. Donc ça se passe pas dans la variété quoi. C'est pas il y a un peu de lingerie spécialisée mais qui est assez chère. Donc finalement on devient un peu puriste sur un peu basique. Sur le soutien-gorge.
Avec la prothèse externe donc. Oui. Moi je peux encore mettre des soutiens-gorge ou bien des brassières, c'est plus pratique. Des brassières où on peut mettre la pochette à l'intérieur. Donc, avec la prothèse. Et justement, je viens de découvrir il y a quelques jours qu'il existait, personne ne me l'avait jamais dit, ça fait quand même 12 ans.
Alors, raison de plus pour en parler à la radio.
Grâce à une orthopédiste qui a des prothèses contact. Et les prothèses contact, c'est des prothèses qui sont collées à la peau. Moi, je n'ai pas de prothèse contact, j'ai une prothèse externe, mais non contact. Donc, je vais m'enquérir. D'ailleurs, je sais que déjà qu'il faut que j'appelle Valence, parce qu'ici, je ne trouverai pas dans une pharmacie à Valence. Voilà, mais le plus difficile, c'est pour la baignade, je trouve. C'est un peu compliqué.
Alors moi, j'avoue que bon, on n'a pas toutes les deux des très fortes poitrines.
C'est pas très gênant. Mais
je me suis trouvé un maillot de bain, parce que les questions se posent, moi, depuis moins longtemps. Parce que la première année, j'étais en pleine chimio, donc immunité dans les chaussettes, donc le maillot de bain, on évitait. Mais l'été dernier, du coup, la question s'est posée. Et en fait, je me suis trouvé un petit maillot de bord de pièce. Et je me suis dit, en fait, ben, d'un côté, je suis plate. D'un côté, je suis un peu moins plate. Et je m'en fous.
Oui, voilà.
Et en fait, je m'en fous. Et quand bien même ça interrogerait le regard, ben, tant mieux. Et que si ça provoque une discussion, tant mieux aussi. Et j'avais eu un peu cette même penser au moment où finalement j'avais enlevé mon foulard avec un petit crâne d'oisillon où on se rendait bien compte que c'était trop court pour être vrai, mais c'était important aussi quelque part de dire voilà, pas cacher, pas finalement me mettre dans des complications alors que voilà, c'est comme ça, je suis comme ça et puis c'est tout quoi. Enfin, c'est pas ostentatoire, je vais pas faire du sein nu avec un seul sein, mais en même temps je vais pas me planquer.
Oui, mais
après moi ma question était vraiment purement pratique en me disant est-ce qu'il y a des modèles prévus, spécifiques?
Alors, je crois qu'il y a une femme qui a eu le prix d'entrepreneuriat rose, je crois que c'est Garance, qui a fait une ligne de maillots de bain relativement quand même bon marché. Donc ça existe, on peut être belle et bien, voilà, ça existe. Après, je pense que ça dépend vraiment de nous, comment on s'accepte avec notre corps et si on peut avoir cette démarche finalement assez spontanée ou au contraire avoir besoin de se cacher ou de se reconstruire, parce que la question derrière, sans doute, c'est la reconstruction, j'imagine.
Ça doit être... ouais. La deuxième question un peu délicate, la peur de la récidive. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que c'est justement quelque chose que vous gérez avec les accompagnements psychologique
Moi, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai franchement pas eu. Et d'ailleurs, même avant, après l'ablation, avant les traitements, j'étais persuadée qu'avec tout le travail psychologique que j'avais fait d'accompagnement, de réflexion et tout ça, sur le sens de la maladie et sur le sens que ça avait pour moi, et que finalement, c'était plutôt une renaissance, en fait. Et j'étais persuadée que j'étais guérie après l'ablation. Et quand on m'a annoncé qu'il fallait faire tout un protocole de traitement et tout, j'étais prête à refuser, en fait. Je ne l'ai pas refusé parce que j'avais peur à ce moment-là. Donc j'ai accepté le traitement complet. Mais la récidive... comme j'ai eu un traitement pendant 5 ans, puisque c'était un cancer hormonal... Je me sentais protégée par le traitement déjà pendant 5 ans. Puis après, quand on vous dit après 5 ans, de toute façon, vous craignez plus rien. Voilà, j'ai pas eu peur de la récidive.
Donc voilà, ça c'est fait, on passe à autre chose.
J'ai pas eu de récidive.
Moi, je te rejoins.
Pas envie, en fait.
Non, pas envie, vraiment, non, pas bon, envie. Merci, c'est bon, une fois. C'est bon, c'est j'ai fait. Donné.
Ça, c'est sûr. Et puis, je pense qu'il y a une conscience, effectivement, du chemin parcouru sur. Moi, j'ai pas mal réfléchi à l'équation de mon cancer, en fait. Pareil, un peu dans cette démarche de sens, de chercher à. Pas pour accuser ou culpabiliser, mais juste un peu pour comprendre ce qui s'était joué, rejoué. J'avais un petit souci avec la colère. Je ne savais pas que je pouvais être en colère. Bon, j'ai compris après qu'effectivement, ça pouvait exploser. Mais finalement, la récidive, je me dis, j'ai fait le choix de garder cette cicatrice, donc tout près de mon cœur, qui est là, hein, qui est visible, qui peut me rappeler effectivement soit l'épée de Damoclès, soit simplement le fait que je suis en vie. Et j'ai choisi ce côté-là, moi aussi. Pareil, je pense que je suis guérie. Je suis guérie et par contre, je me rappelle bien que je suis en vie. Et ça, je pense que c'est le meilleur remède.
Même plus qu'avant.
Ah bah, ça n'a rien à faire. C'est oui, en pleine de tout notre être, en fait, je pense.
En tout cas, ça se voit, vous n'avez pas l'air ni l'une ni l'autre terrorisée par quoi que ce soit. Donc.
Et par rapport à la reconstruction, enfin, je ne sais pas si on devait en parler, mais je me suis posé la question quand même. J'aurais aimé à un moment donné. Mais mon entourage, alors que ce soit mon compagnon ou mon fils... Mon fils qui avait travaillé à 20 ans, il avait 20 ans à ce moment-là, il avait travaillé dans un camping naturiste et il m'a dit, mais tu sais, j'ai vu la mère d'un copain qui n'avait qu'un sein, mais elle était belle. Et alors, il m'avait dit, non, mais en fait, j'appréhendais la reconstruction, je voulais savoir autour de moi aussi et personne ne me l'a conseillé. Du coup, j'ai accepté de ne pas la faire et... Je suis contente de ne pas l'avoir fait, d'autant ce qu'on a appris après sur les
prothèses.
Sur les prothèses. Ouais, c'est sûr que c'est
pas... Après, c'est un chemin, je pense, pour chacune. Moi, je sais que pour moi, la fin du cancer, c'était le jour où j'allais rendre mon cathéter. Donc, ma reconstruction, elle passait pas par une reconstruction de ma mère, mais elle passait par quelque chose de plus général. Donc,
sortir du dispositif.
Voilà. Donc, en soi, c'était pas chercher à revenir comme j'étais avant, face extérieure visible. Au contraire, c'était peut-être le grand changement entre l'avant et le maintenant, c'est que face extérieure visible, bon...
Et c'est aussi une certaine manière d'accepter cette maladie. Elle a été là, elle est passée, et maintenant elle fait partie de vous. Et...
C'est ça, et puis finalement je reviens sur ce fameux tout près de mon cœur. Voilà, donc des souffrances, enfin bon, parce que c'est quand même pas évident la reconstruction, je veux dire. Oui. Voilà, il y en a pour qui c'est vraiment important parce que ça fait partie du processus de guérison complet. Moi, c'est pas le cas, je me dis tant mieux parce que je m'épargne quelques opérations.
Alors je reprécise, ce serait pour les auditeurs et auditrices, que ce qu'on entend par reconstruction, c'est justement la pose d'un implant mammaire. J'aurais dû refaire cette petite parenthèse avant.
Voilà. Interne.
Interne.
Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est pas. Je m'étais. Voilà, il y a quelques temps, quand je me disais, tiens, si on me pose la question, est-ce que. Bon, je pense que non, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais peut-être que j'ai pas envie parce que je sors de l'opération, des chimios, des machins. Mais en fait, non, je suis comme ça. Et puis, j'aime bien ce côté, finalement, une phase femme, un côté garnement. Enfin, voilà, je me plais, quoi, comme ça, c'est ma singularité. Voilà.
Pour aborder un autre point de vue, une autre question après après ce traitement et après cette maladie, ce qu'il en a été de vos relations professionnelles. Je ne sais pas si vous étiez en activité quand ce cancer du sein est arrivé. Comment ça s'est passé avec votre entourage professionnel au retour? Est-ce que justement c'était quelque chose de tabou? Est-ce que comme vous l'affirmiez, les gens se sont sentis soulagés de pouvoir en parler? Quel a été le regard de votre entourage professionnel ou non professionnel, mais en tout cas dans la sphère justement des gens que vous côtoyez habituellement.
Au niveau professionnel, non, moi j'ai eu aucun problème. Enfin, j'ai arrêté de travailler pendant 9 mois en fait. C'est bizarre. Mois.
Pour accoucher de soi, il faut 9 mois aussi. Hein.
Voilà. Ce qui n'a pas posé de problème par rapport à l'employeur.
Non. Et je voulais dire aussi que comme je pratique beaucoup le yoga et que j'ai fait une formation d'enseignante de yoga après. C'est-à-dire il y a quelques années et que le yoga m'a énormément aidé aussi dans mon corps et dans ma tête à accepter ça aussi et à voir que finalement ça ne changeait rien. Au contraire, ça m'a les lendemains de chimiothérapie, j'allais au cours de yoga et j'ai pu mobiliser mon bras comme si de rien n'était alors que j'avais eu aussi une ablation sous le bras, sous l'aisselle, enfin et ça allait très bien en fait physiquement voilà.
Et moi, du coup, bah, professionnellement, c'était... moi, j'ai enquillé un congé maternité et un congé grave maladie. Donc, en fait, l'établissement pour lequel je travaillais a réorganisé à ce moment-là. Donc, ça a été l'occasion pour eux de changer un peu l'organigramme et moi de négocier mon départ, en fait, on va dire ça comme ça, et de me réorienter finalement professionnellement, puisque j'ai pris aussi ce temps de soins au sens large pour me dire, bon, jusque-là, t'es arrivée, t'as fait ci, ça, qu'est-ce que tu veux faire maintenant quand tu seras grande ? Et donc, j'ai négocié une belle formation et je monte ma structure, en fait, voilà, en coaching de dirigeant associatif et de responsable politique. Voilà, donc je tire le fil de ce que je faisais avant, mais sur quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour moi aujourd'hui. Et finalement, je les remercie d'avoir supprimé mon poste.
L'occasion de...
Voilà. Oui, c'est vrai, je n'avais pas eu l'occasion de les remercier. Je vous remercie.
Sur justement la question de transmission, vous, Patricia, peut-être à travers l'association Skin, vous avez l'occasion d'en parler beaucoup. Vous êtes venue à Die pour en parler aussi au sein des rencontres de l'écologie au quotidien.
Joli jeu de mots.
Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'il existe des cercles de parole, des associations ? Est-ce que toi, Marie-Vonne, sur la Drôme, tu en as côtoyé, consulté ? Et la deuxième question, un peu en corollaire, sur les sites internet relatifs au cancer du sein et au cancer en général, j'ai trouvé foultitude de guides, de documentation. Est-ce que vous avez eu recours aussi à ce type d'ouvrage ? Est-ce que vous avez consulté ces sites internet faits pour les patientes du cancer du sein ?
Non, moi je n'ai pas consulté de sites internet. En fait, c'était plutôt avec des livres pour chercher les causes de maladie, causes de cancer. Comme je disais tout à l'heure, quand on m'avait dit que c'était une résolution de conflit, eh bien, voilà, voir dans la vie, ça n'arrive pas n'importe quand. Et si ça arrive, quelque part, presque, je me dis, ce cancer, il a dû me sauver quelque part. Et quand je dis ça, on ne peut pas dire ça à tout le monde.
Moi, je pourrais aussi, je suis contente de t'entendre.
Et oui, parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre et je crois que je l'ai compris. Et quelquefois, quand il y a récidive, ce n'est pas récidive de cancer, c'est récidive des pensées d'avant ou des fonctionnements psychologiques d'avant le cancer qui peuvent revenir parce que, bon, ça peut revenir. On a toute la vie, en fait, pour guérir.
Et se connaître.
Donc, documentation plutôt par les livres et ensuite...
Par les livres, par des personnes que j'ai rencontrées. Et puis, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir aider une femme qui était dans la même situation, si elle le voulait bien sûr, parce qu'on ne peut pas aider les gens contre leur gré, leur donner des conseils ou par rapport à des compléments alimentaires, par rapport voilà des choses comme ça, ou des aides, leur donner l'adresse de la personne que j'avais vue...
Mais c'est pas organisé, je veux dire.
Mais c'était
exemple,
pas organisé.
Par exemple, aujourd'hui, une personne le cancer du sein va être dépisté, en tout cas par exemple sur la Drôme, on lui propose pas de rencontrer des patientes telles que toi qui s'en sont sorties.
Tu peux en rencontrer de toutes.
Ici, je ne sais pas. Dans la Drôme, franchement, je ne sais pas dans la Drôme, non.
On en rencontre en même temps quand on va sur des lieux de soins. Ouais. Moi, c'est vrai que quelque part, j'ai pas eu envie d'aller regarder les forums. J'ai regardé le site de l'Institut Curie parce que je me suis dit c'est rationnel, c'est cartésien, il y a ça, etc. Pour le reste, j'avais envie de me faire ma propre expérience et que j'avais envie de le vivre d'une certaine manière et que je voulais pas risquer d'être un peu trop pathos, un peu machin. Par contre, ce que j'ai trouvé très riche, c'est que finalement, quand tu vas dans à Curie, je ne sais pas si c'est pareil à Valence, on se retrouve à attendre beaucoup, attendre à côté de femmes et d'hommes avec qui on peut échanger. Et finalement, cet échange de bons plans, de « ah bah tiens, j'ai 3 chimios d'avance sur toi, alors moi j'ai essayé l'acupuncture, c'est trop bien pour ça », ou « ah bon, vous avez terminé, alors qu'est-ce que... » Et finalement, au sein de cet espace de soins médical, j'ai rencontré à recevoir et à donner. Et ça a été très bien pour moi comme ça. Donc, pas hésiter à parler à nos voisins, mais en même temps, c'est valable dans la vie au sens large. Donc, je dis un peu plus bonjour aux gens à côté, même dans le métro. Mais voilà, à l'hôpital, pas hésiter à échanger avec les gens qui sont assis à côté de nous, parce qu'il y a bien souvent de belles rencontres. Et ce temps de partage, il est important quand on est dans la maladie et aussi quand on en sort, de pouvoir transmettre un peu cette expérience, un peu sur, voilà, bon, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas trop mal marché. Voilà, je distribue un peu les cartes que j'ai eues. Après, chacun s'en saisit, peut s'en saisir ou pas, mais cette transmission finalement de femme à femme en direct, quoi.
Oui, puis au final, c'est ce que vous continuez à faire toutes les deux aujourd'hui, de manière plus ou moins formelle, et aujourd'hui à la radio.
Ouais. Mais, oui, parce que je pense que c'est important. Moi, j'ai connu des femmes qui avaient eu différents cancers et qui ont... À partir du moment où il y a négation, déjà, de la maladie, un déni, et on peut être dans le déni, je peux le comprendre, mais c'est ces personnes-là, moi, que j'aimerais pouvoir aider, parce que j'en ai vu qui sont partis, parce que surtout, il ne fallait pas en parler. Donc, pour moi, c'est triste, enfin, c'est vraiment triste.
L'image qui me vient derrière ce que tu dis, c'est en fait ce processus de deuil, d'accepter effectivement la colère, de savoir la voir, pouvoir la voir ou pas, et d'être en paix finalement avec ce qui nous arrive à ce moment-là, déposer les armes quand ce cancer vient frapper à notre porte. On n'est pas tout en mesure de pouvoir le faire, et c'est vrai que globalement, d'accepter ce processus, voilà, de deuil avec cette tristesse derrière, ce vide, et puis après ce rebond de joie, de créativité, de renouveau, de conscience de soi, etc.
C'est, oui, parce que ça va au-delà du corps. Et même si moi je me suis dit à ce moment-là, finalement qu'est-ce que c'est? C'est que c'est pas grave, c'est pas un organe vital. Dans ce sens-là, j'ai essayé de voir la chose positivement. C'est pas comme le cœur, le foie, voilà, c'est quand même. Et c'est pas vital. Et surtout que moi c'était arrivé à 50 ans, donc je voulais plus avoir d'enfants. Où je me suis dit, c'est pas le plus important, le corps là, il faut que je m'occupe de ma tête, c'est ma tête dont je dois m'occuper, de mon esprit et de...
Alors que moi, tu vois, j'ai pris conscience de mon corps, mais j'ai assis ma tête sur un corps, en fait.
D'accord.
Ça a fait, voilà, ça s'est relié, ça a été un temps de, voilà, vraiment de reliance entre, voilà, cet esprit, ce mental qui gouvernait beaucoup. Et finalement, voilà, le fait de s'inscrire pleinement en soi, c'est aussi un des apprentissages de ça, de relier, voilà, l'âme et le corps.
Moi, j'ai pris conscience, quand j'ai eu ce cancer, à 50 ans, donc, que j'étais mortelle.
Ah oui, ça oui.
Je n'avais pas pris conscience avant, bon, parce que forcément, à ce moment-là, j'ai quand même eu peur. Et ça, je nie pas que j'ai eu des moments de frayeur lorsque j'étais seule à la maison, quelquefois. J'étais effrayée, je me suis dit, mais... Voilà, je sais pas, ça venait comme une angoisse, quoi.
Mais d'avoir traversé ça, tu dis qu'aujourd'hui, t'as plus peur?
Non, enfin, moins, je pense. Plus, je ne sais pas, mais moins, c'est certain.
On a appréhendé la question. C'est vrai que la question que tout le monde repousse du jour où, voilà, forcément, on se la pose. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce réflexe de dire, ce n'est qu'un cancer du sein. Alors, c'est vrai que là aussi, pareil, tout le monde ne peut pas bien recevoir et entendre ce qu'on dit comme ça, mais... Moi, je me suis dit que j'avais eu la chance que le cancer n'était venu frapper qu'à la porte de mon sein et pas plus dans ma féminité et pas plus dans mes organes où là, bon, là, il y a de la lumière au bout du tunnel quand c'est dépisté, diagnostiqué à temps. Et je l'ai vécu finalement comme une chance de dire, bon, voilà, première sommation, et c'est la seule sommation. Donc maintenant, voilà, on écoute. On s'écoute.
Eh ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Donc, aux auditrices, surtout, d'abord, même pas peur. Et ensuite, profitez des dépistages. Soyons vigilants pour que tout ça se passe bien. Merci Marie-Vonne et merci Patricia pour cette émission sur la vie après le cancer du sein sur RDOA 107.5 FM. Et on va terminer avec un peu de musique. Alors c'était facile comme choix, j'ai choisi Brigitte Fontaine.
Merci Patricia, merci Marie-Vonne.
Au revoir Thaïs. Au revoir. Merci.
Je veux être aimée pour moi-même. Et non pas pour mes ornements. Je veux être adorée quand même, sans cheveux, sans chair et sans gants. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des habits c'est facile, avec des bijoux, des fourrures. J'aime ce qui est difficile. Je veux être aimée sans parure. Je veux être aimée pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimée pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile, je veux être aimée sans cheveux. Je veux être aimée pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se donnent pour mon charmant occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des chairs c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. J'aime ce qui est difficile, je veux qu'on aime mon squelette. Je veux être aimée pour le pire, je veux être aimée pour mes os. Je veux que les hommes délirent comme des chiens sentimentaux. Mais